Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadeloupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. Alors nous poursuivons, la nuit a été bonne, et là nous allons partir en direction du sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Vous savez, la ville de Mexico est très 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 grande, je vous l'ai déjà dit, ce qui veut dire que de l'endroit où nous sommes, dans cette fraternité de prêtres, eh bien c'est quand même assez loin. Et comme il y a des milliers de voitures sur les routes, alors on ne peut pas se rendre de l'endroit où nous sommes jusqu'au sanctuaire de manière fluide. C'est très long. Alors ça va nous prendre, je pense, presque 1h30, 1h30 de l'endroit où nous demeurons pour nous rendre au sanctuaire de Notre-Dame de Guadeloupe. Évidemment, le sanctuaire est situé aux endroits historiques où Juan Diego a eu cette expérience extraordinaire des apparitions de la Vierge Marie. Il faut vous donner le contexte de tout cela. Je vais le faire simplement parce que c'est pas simple, faire simplement quand c'est pas simple, mais je vais vous raconter au fond ce que je retiens. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, et nous allons quand même entrer de façon assez particulière dans les récits qui nous sont donnés de cette expérience de Juan Diego en 1531. Alors, nous allons aller en amont, c'est-à-dire avant 1531, pour essayer de découvrir un peu qui est Juan Diego. Alors, il fait partie des Aztèques. Alors, les Aztèques sont une tribu importante du Mexique. Ils ont leur manière de vivre, ils ont leur culture, ils sont très très avancés, par exemple sur le plan des mathématiques, autant que les grandes cités du côté de l'Europe. Ce sont des gens très très brillants, très intelligents, et ce sont des constructeurs fameux, une architecture splendide. C'est ce que vont découvrir les Espagnols lorsqu'ils arriveront de l'Europe, par exemple Cortés. Cortés va arriver dans ces contrées, et il va découvrir la richesse intellectuelle et du savoir de ces peuples, et surtout les Aztèques, parce que ce sont d'eux que nous parlons. Et Juan Diego fait partie de ce peuple. Cependant, il y a un hic. Ce sont des peuples, les Aztèques en tout cas, qui ont développé toute une mythologie, une sorte de théologie qui est très, très compliquée par rapport aux divinités. Pour faire justement un résumé, c'est que leur religion est centrée sur le dieu soleil. Alors on n'invente rien parce que, bon, on sait que dans l'Antiquité, par exemple, les Égyptiens considérait le soleil comme une divinité, et d'autres peuples. Alors le soleil est une divinité, et la lune aussi. Alors il y aura toujours un échange entre le soleil et la lune, et il y a toute une dynamique très compliquée d'une théologie qui rejoint aussi les hommes, parce que les hommes sont en lien avec ces divinités. Et le chemin le plus simple, c'est celui-ci, c'est que le soleil qui éclaire et qui doit se lever chaque matin, eh bien pour les prêtres et leur enseignement, le soleil a essentiellement besoin du sang humain pour ne pas mourir. étrange. La divinité soleil a besoin de s'abreuver du sang humain pour que la vie ne s'arrête jamais. Le sang étant un élément vital, alors pour que la vie ne s'arrête jamais et que le soleil se lève chaque matin, dans leur conception, et on est dans les années 1500 et 1400, bon en tout cas, et dans leur conception, alors c'est le sang humain qui fait en sorte que la vie continue et que la divinité sera favorable et que, justement, le soleil va continuer de se lever, de réchauffer, de faire en sorte que la vie, la nature, s'abreuve également des rayons du soleil, de cette clarté. Les conséquences sont atroces. Alors, on sera dans l'expression des sacrifices humains. Alors, les prêtres, les sacrificateurs vont être dans des endroits, dans des temples où, de façon quotidienne, ils ne cessent de faire des sacrifices humains qui sont terribles de par leur description. Alors, écoutez, on arrachait le cœur encore palpitant dans le corps des personnes, et souvent c'était des hommes, c'est les hommes qui étaient sacrifiés. Alors c'est quelque chose de terrible, quelque chose d'atroce. Et les Espagnols chrétiens qui vont arriver, comme Cortés, vont être vraiment horrifiés par cette manière de comprendre la religion, cette manière des prêtres d'enseigner cette façon de faire pour qu'il y ait un pont entre la divinité, le Dieu soleil, et la vie sur terre. Et ce pont, c'est simple, le soleil se nourrit du sang des sacrifices humains. Alors on nous raconte dans les récits que certains jours, ce sont des milliers, mais des milliers de personnes qui sont sacrifiées pour justement garder l'équilibre. Garder l'équilibre de cette création dans cette conception de la divinité où le soleil a besoin de boire et de s'abreuver du sang humain pour continuer de briller, de se lever chaque matin. Alors vous imaginez comment le christianisme, alors ce Dieu unique, évidemment, Jésus, le Fils du Père, le Père créateur, le Père plein d'amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique. Évidemment, Jésus va mourir sur la croix comme victime, il va verser son sang, il va donner sa vie. Alors les premiers missionnaires, les franciscains, vont arriver sur ces terres et vont annoncer leur bonne nouvelle, cette bonne nouvelle. Alors qui va arriver en conflit avec la conception religieuse de l'univers religieux des Aztèques. Alors c'est une évangélisation difficile, très difficile, qui aura, je dirais, une opposition farouche par rapport à ces missionnaires qui viennent d'étrangers, que l'on trouve très bons, que l'on trouve pieux, on est étonné de voir leur bonté et d'entendre les balbutiements, les premières paroles d'une annonce d'un Dieu qui aime les hommes et les femmes et les enfants, d'un Dieu qui n'est pas assoiffé de leur sang. Alors vous voyez le contraste inouï entre la conception théologique, la conception de la création et de la survie du monde des Aztèques et l'arrivée des premiers missionnaires chrétiens. Alors ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais ça va prendre un événement particulier hors de l'ordinaire dans la vie de ce peuple pour changer cette trajectoire d'une conception atroce qui tue constamment les personnes. Et vous savez, les gens y vont. Les gens croient que c'est bien de le faire. Les prêtres leur ont enseigné que c'était bien de se sacrifier. Alors, depuis qu'ils sont tout petits, ils savent qu'un jour, ça va leur arriver. Bon, il y en a qui vont donner leur sang en sacrifice humain. D'autres seront orientés vers l'armée, vers la guerre. Alors, on donne aussi son sang. C'est, Bon, on donne tout le temps notre sang, évidemment, mais c'est une conception vraiment atroce des sacrifices humains. Alors, qui est ce Juan Diego? C'est un Aztèque. Donc, il est élevé dans cette mentalité et, il va grandir dans tout cela et il sera touché par les premiers missionnaires franciscains qui vont arriver. On sent bien que c'est un homme de paix, un homme de tranquillité. Alors, Juan Diego va se marier autour de l'âge de 20 ans avec une Aztèque aussi. Ils n'auront pas d'enfants. Elle va mourir avant les apparitions. Et Juan Diego, au moment des apparitions, est dans la cinquantaine. Là, c'est pas les enfants de Fatima, là. C'est pas Bernadette Soubirous à 15 ans. C'est un homme d'âge mûr. Alors, Juan Diego, ce n'est pas un pauvre, mais ce n'est pas un riche. C'est quelqu'un qui vit de façon simple, dans la moyenne. Alors, ils demanderont avec sa femme le baptême. Donc, Juan Diego demande le baptême, ce qui veut dire qu'il a les enseignements des missionnaires, il apprend à comprendre et à saisir le mystère de la foi chrétienne, de ce Dieu d'amour, de Jésus qui a donné sa vie pour nous sauver, de Jésus qui est toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, et de sa mère, de Marie, de laquelle est né Jésus. Alors, la connaissance de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, l'Église, corps du Christ. Alors, ce sont, voyez-vous, des gens qui ont avancé dans la connaissance de la foi, de manière très humble, très simple, mais dans la joie, dans le bonheur. Et voilà qu'arrive cet événement des apparitions de la Vierge à Juan Diego. La première apparition a lieu le samedi 9 décembre 1531, premier jour de l'octave de l'Immaculée Conception. Alors, Juan Diego porte ce qu'on appelle un tilma. Un tilma, ou dans leur langue, c'est un ayat. Alors, le tilma, c'est comme un grand manteau. Un manteau comme une sorte de tablier aussi qui part des épaules, qui s'attache aux épaules, aux deux épaules, et qui descend assez bas. Parce que c'est un vêtement aussi pour le travail. Ça peut les aider pour travailler, pour transporter, par exemple, des branches, des choses. Alors c'est le vêtement des humbles. Tout le monde porte un tilma. Alors il est enveloppé dans son tilma parce qu'il fait froid. Le 9 décembre, à Mexico, c'est froid. On est à 2250 mètres d'altitude, il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Ça fait partie du concret d'aujourd'hui de cette ville de Mexico. Donc, Juan Diego se hâte d'arriver pour entendre la messe qui est dite en l'honneur de la Sainte Vierge, puis de s'occuper de ses affaires. Et là, il lui faut passer au pied de la colline du Tepeyac, une petite colline où étaient situés trois petits temples dédiés à la déesse Tonantzin, mère des dieux et des Aztèques, et démolie par Cortés. Alors, vous voyez le spectacle, vous voyez le décor. Donc, il se rend pour la messe. Il doit passer par cette petite colline qui abritait jadis des temples aux dieux païens. C'est tout juste avant l'aube, il est vers 5h30. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible » ou « Les sept marches de l'escalier » dont je suis l'auteur. Elle cuisait les galettes qui embaumaient la petite chaumière et creusaient l'appétit de Petit Jean. Mais lui se demandait bien comment il allait parler de ces nouvelles étoiles réapparues dans le ciel de son cœur et entreprendre ainsi la seconde marche de l'escalier. Joyeuse, la dame de la montagne se tenait près du fourneau. Elle fredonnait un petit air difficile à reconnaître.
Jean se risqua. « Je me sens prêt pour la deuxième marche de l'escalier ?»«
Elle est franchie, mon garçon. »«
Franchie ?»«
La première marche, tu l'as montée lorsque la tristesse fut passée. »« Lorsque tu t'es empressé à chercher l'eau, déjà de nouvelles étoiles brillaient dans tes yeux. »
Petit Jean se rendit soudain compte que depuis l'histoire du puits, la première marche et sa tristesse étaient choses du passé. Mais la seconde, quand et comment donc ?
La dame sourit. Tu t'imaginais que toutes les marches se ressembleraient, non ? Et pourquoi se ressembleraient-elles ?
Certaines exigent effort et combat, mais d'autres sont plus subtiles. Petit Jean ne l'entendait plus. Il cherchait la deuxième marche.
« Tu dis que je l'ai franchie ?»«
Bel et bien. »«
Mais qu'est-ce que c'était, la deuxième marche ?»«
Une découverte. »«
Une découverte ?»«
Oui. »« Le puits sous la maison et l'eau qu'il faut protéger. »
La maison, c'est toi.
Et le puits, ton cœur.
C'est là que se trouve l'eau et la cible. La fameuse cible, constamment sous la menace d'une invisible puissance. Elle l'avait placée dans ses mains, bien appuyée sur lui, pour lui signifier qu'il faisait désormais un avec elle.
Ta maison ne sera pas épargnée par les orages. Mais c'est toi qui l'auras bâti, et c'est toi qui as la clé. Aussi longtemps que tu veilleras à ce qu'on n'atteigne pas la cible de ton cœur, tu n'as rien à craindre. Tu as plein pouvoir d'y laisser entrer ombre et lumière, et ce n'est pas plus facile d'ouvrir que de fermer. C'est en maîtrisant ces pouvoirs que tu auras la joie.
Petit Jean respirait mal, coincé dans tous ses conseils de prudence. Il répliqua
« Mais comment peut-on rester joyeux s'il faut constamment tout surveiller, ce qui vient, ce qui va, ce qui peut nous atteindre ?»«
On devient joyeux. On ne l'est pas nécessairement tout d'un coup. »«
Je ne comprends pas. »«
Ne t'es-tu pas entraîné pour devenir le meilleur archer ?»«
Oui. » »«
Au début, ressentais-tu cette joie ?» qui arrive un jour après tant d'efforts. La joie, c'est le résultat du cœur qui s'est battu pour n'être pas contaminé. Tu comprends ?
Tout ça n'est pas facile.
La seconde marche de l'escalier est peut-être plus difficile que l'arc et ses flèches.
Petit Jean n'avait plus le goût des galettes.
Comme il aurait aimé tirer à l'arc. Il prit la cible et, sortant dehors, il la lançait à la verticale tout en la faisant tourner.
Une dernière fois, il l'attrapa entre ses bras et la pressa avec force sur son cœur. Ce soir-là, Petit Jean s'était endormi dans ses pensées. Toute la journée, il avait jonglé avec les mots que la dame de la montagne avait semés en lui. « Cœur, joie », se répétait-il intérieurement. Mais sans résonance. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Les poules caquetaient toujours dans leur enclos. Tout à coup survient un serpent qui les affole et les oblige à se jucher un peu partout et sur les poutres de l'enclos. Le serpent se faufile ici et là, cherchant à dévorer les œufs. Cependant, il ne s'en prend pas à n'importe lesquels, mais bien à ceux qui sont couvés. Petit Jean, témoin du chahut et de ce qui se prépare, intervient. Avec un bâton, il entre en lutte avec le serpent pour le chasser. Puis il frappe si fort qu'il sortit de son rêve et se réveilla en continuant de frapper. Dans l'obscurité où il se trouvait, il mit du temps à passer du rêve à la réalité, puis essaya de s'endormir à nouveau. Mais son songe ne le quittait pas. Anxieux, il cherchait à en comprendre le sens. Il se leva, se rendit jusqu'à la porte de la chambre où dormait la dame de la montagne, et frappa nerveusement.
« Tu dors ? Je peux te parler ? »
souffla-t-il. Se réveillant à son tour, elle répondit
« Tu as peur ?»«
Je ne sais pas, je veux te parler. » Une petite chandelle s'alluma sur la table de nuit, près du lit, et Petit Jean s'approcha comme un enfant apeuré. S'étant assis au pied du lit, il se mit à lui raconter en détail le rêve qu'il avait fait. La dame s'y connaissait.
« Les poules représentent la peur, mon garçon. La peur devant le danger, comme ceux qui ne font que crier sans plus.
Et les œufs ?
Tu as remarqué que le serpent ne cherchait pas des œufs quelconques, mais ceux que les poules couvaient. Ces œufs symbolisent la vie, l'avenir, le centre, le cœur. Alors le serpent personnifie la ruse, mais aussi le mal qui sait où trouver la vie, le cœur, l'avenir pour tuer.
Petit Jean commençait à comprendre. Soudain, il demanda « Et moi ?»«
Toi, tu as vu le danger, et tu es allé plus loin que la peur. Tu as lutté contre le serpent. »
« Mais je ne sais même pas si j'ai gagné. Je me suis réveillé en frappant. »«
Voilà. Tu t'es réveillé en frappant. Ce sont là ta victoire et ta joie. Le monde des rêves a parlé. Va dormir, mon garçon. Demain, c'est la troisième marche de l'escalier. »
Petit Jean retrouva son petit coin où il dormait près du seuil de la porte.
« La troisième marche !»
pensa-t-il longuement, avant que le sommeil ne s'empare de lui. Petit Jean se leva tel un guerrier prêt à tous les combats. Ce rêve l'avait transformé. La peur ne le retenait plus, ni la lutte pour défendre la vie, celle des autres et la sienne. Il était impatient d'entreprendre la montée d'une autre marche de l'escalier, et déjà il se voyait en train de faire la grande ascension. « Lumineux !» il dit avec force à la dame de la montagne.
« Je sais maintenant ce qu'est la joie !»«
Je la vois très bien dans tes yeux. Elle vient des racines de ton cœur. Mais au fait, quel est ton nom ?»«
Jean. Mais tout le monde m'appelle Petit Jean. »
Le matin était doux dans la petite chaumière, et la dame de la montagne préparait le petit déjeuner. Petit Jean voulut l'aider.
« Attends, Petit Jean, je sais comment faire. »« Pas encore. Assieds-toi et mange. »
Il n'eut pas de peine à obéir et dévora presque toutes les galettes. Il était dans un autre monde, presque euphorique. Une énergie nouvelle s'était emparée de lui. Il était fort, invincible, prêt à tout. Buvant lentement son thé chaud, la dame de la montagne le regardait dans la vigueur de son printemps. Hier, il était défait, abattu, cette nuit même perplexe et craintif. Et voilà que ce matin, le vent s'était mis dans ses voiles et le pressait en avant. N'y tenant plus, il dit
« Je suis paré pour la lutte. À quand cette troisième marche ?»«
Tu peux m'aider avant ?»«
Certainement. »
« Range d'abord ce qui se trouve sur la table. Je reviens. »
Elle se leva et se dirigea vers sa chambre, où elle pénétra pour ensuite refermer la porte sur elle. Petit Jean l'avait suivie du coin de l'œil, intrigué. Que mijotait-elle donc cette fois ? Fixant la porte, il se préparait à découvrir un autre mystère. Soudain, la porte s'ouvrit. La dame jeta un regard vers Petit Jean. Elle sembla mécontente et disparut à nouveau derrière la porte qu'elle referma. Petit Jean resta intrigué. La porte de la chambre s'ouvrit à nouveau et la dame se dirigea vers la table. Petit Jean était tout ouï. Il allait enfin savoir.
« Petit Jean,
tu ne me demandes rien ?
Mais je ne comprends rien, tout se va et vient.
Tu voulais m'aider tout à l'heure, tu t'en souviens ?
Oui, mais tu n'as pas voulu.
Je t'ai dit, pas encore. Et après ?
Après ?
Ne t'ai-je pas demandé de tout replacer ?
Cette phrase frappa Petit-Jean comme la foudre.
« J'ai oublié. J'ai complètement oublié. J'étais perdu dans toutes mes pensées. Je suis désolé. »
Que valent nos rêves, Petit-Jean, lorsque le moment présent doit les souffrir ? Tu étais assis, n'est-ce pas ?
Je suis encore.
Il est facile de souffrir. Mais il est plus encore d'oublier qu'on s'est offert, surtout lorsqu'il s'agit des plus petites choses.
Petit-Jean se leva avec empressement et se mit à replacer les plats et à laver la vaisselle.
Intérieurement, il se répétait, irrité. Assis, debout, debout, assis, pas encore, c'est le moment.
Il avait peine à tout saisir, mais il n'abandonnait pas la lutte, certain que la dame de la montagne cherchait à l'aider.